Bonjour et bienvenue dans la bande originale. Attention, une bande originale sans Nagui. Et je peux vous dire, qu'est-ce qu'on est triste. Si vous saviez comme je suis triste, je suis au bord de l'eau, ça marque qu'il est là. Oh là là, je suis triste comme je l'ai rarement été, je peux vous le dire. Enfin bref.
C'est Brésil.
Nagui, oui, c'est un hommage aux élections du Brésil. Nagui n'est pas là, mais nous, oui, et nous, c'est Frédéric Sigrist.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Tom Villain.
Bonjour.
Dernière demi-heure, on accueille Tanguy Pastureau pour la maltraitance de l'info, bien sûr. À mes côtés, quelle joie, Leïla Kaddour-Bounadi.
Bonjour à tous. Et nos invités aujourd'hui dans la bande originale sont Pio Marmaille et Vincent Elbaz. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Vous êtes en forme?
Parce que j'ai dit salut les zozos, mais j'ai l'impression que c'est passé un peu à la trappe.
Ah oui, on l'a pas entendu.
Ouais, mais
c'est
salut les zozos.
Premier effet loupé, Pio Marmaille. Comment ça va ce matin tous les deux?
Ça va, moi, écoutez, ça va. Personnellement, ça va.
C'est la frite, ouais, ça fait pas mal.
Nagui n'est pas là.
Qu'est-ce qu'on est triste.
c'est la première fois qu'on reçoit un mort avec vous, Vincent Elbaz. On va parler de votre personnage dans le film En Liberté. Ouais. Ça commence comme
sympa.
Ça.
Donc, et la fin d'AVC.
Donc, on est là pour parler de En Liberté de Salvadori qui sera en salle bien mercredi. Et dans lequel vous incarnez Vincent Elbaz, une sorte de, on va dire, de super-héros, de flic, qui en tout cas a des scènes de cinéma assez jouissives, j'imagine, à jouer.
Ouais.
Vous êtes un flic ripou.
Ouais.
On s'en rend compte avec le temps. Votre femme Adèle Haenel,
oui,
qui incarne votre épouse Yvonne. Déjà, on a des prénoms déjà aussi. On a des. On va y revenir ça sur.
Ah, j'aime
sur...
bien. Je va bien.
Moi, ouais. C'est très 70.
Ouais. Ouais. Oui, c'est 70 un peu.
Très
oui,
bien
70. Sûr. Ça sent la lavande.
Et Yvonne se rend compte que finalement, son cher époux défunt n'était pas le flic qu'elle croyait qu'il était, un ripou donc qui a mis en prison le personnage de Pio Marmaille, qui est somme toute assez déboussolé par cet épisode, en gros, oui, en gros pour l'histoire.
Qui est tendu aussi. Ça c'est le premier cinquième du film.
C'est ça.
Le premier cinquième. Après ça continue.
Après,
ça continue,
voilà.
Ça n'arrête pas.
On va pas tout dévoiler. Alors, on va revenir à En Liberté de Salvadori, mais avant ça, mes petits camarades, comme à chaque début d'émission, l'interro.
Et ouais. Son côté prof et psychorigide.
On va voir si vous avez bien bossé vos dossiers, Pio Marmaille et Vincent Elbaz. Vous ne répondez pas. On va mettre de la musique, bien sûr. Ça marche pas.
Tu veux que je la fasse à la bouche?
Ouais, fais-la à la bouche. C'est parti.
C'est comme ça que tu l'entends la musique?
Première question, on commence, qui concerne Pio Marmaille. Que lui disaient ses parents? Sois créatif et insoumis, fais tout ce que tu veux, sauf...
Comptable.
Non. Ah, merci pour la musique, Hélène.
Sauf du cinéma.
Sauf comédien.
Sauf la drogue.
Non, non.
Sauf la musique.
C'est un corps de métier.
Sauf huissier.
Sauf douanier.
Assez décrié.
Douanier.
Non, pas douanier.
Flic.
Pas loin.
Huissier. Gendarme.
Pas loin.
Militaire.
Non plus.
C'est le bas de l'échelle. J'ai le bas de l'échelle de la.
Sauf le mettre des contraventions
vraiment violentes. C'est le bas de l'échelle.
Inspecteur des impôts.
CRS.
Bravo Daniel.
Ouais, mais il en faut quand même.
Pourquoi bravo Daniel?
C'est pas Daniel qui a trouvé.
Tom,
excuse-moi.
J'ai aimé ton réflexe.
Mais ouais. Je te privilégie. On poursuit avec Vincent Elbaz. Selon Isabelle Carré, Vincent Elbaz.
Oula,
ok.
Elle a trouvé le mouton.
Vincent Elbaz. Toi, je t'envoie. Toi, je t'enlève 10 points, toi, direct. Toi,
bah, il y avait 0, donc il part à moins 10.
Vous lui coupez le micro, s'il vous plaît. Il participe pas, là, le blondinet mal coiffé. Selon Isabelle Carré, Vincent Elbaz est parmi les acteurs qui...
Putain, j'avais la réponse en plus.
Qui fait
mouche.
Le mieux quelque chose.
Ah, les pattes.
Les baisers.
Ouais, il embrasse le mieux.
Ouais. Parce je confirme. Je ne connais pas. J'ai pas tourné avec Isabelle. Elle peut pas,
c'est ça, voilà. Vincent Elbaz.
Je sais pas, il pio.
Oui, c'est pour nous parce qu'il fallait bien qu'on répète deux, trois séquences tous les deux. Mais oui, je confirme.
Il c'est confirmé. Ouais.
Et pas que la bouche. Ouais. Je suis d'accord.
Non, mais j'ai lu Vincent Elbaz que ça allait même un petit peu plus loin. Vous racontez qu'à chaque fois que vous. Non, mais qu'à chaque fois que vous êtes dans un film, vous tombez un peu amoureux de votre partenaire.
Ah non, mais ouais, non. On me ressort ça des fois, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça ce jour-là.
Ouais, vous l'avez
non,
dit.
Non, c'était une mais parce que elle voulait des questions romantiques. Non, c'est la journaliste, elle voulait des questions romantiques ou je sais pas quoi, donc je disais que des trucs un peu qui me non, évidemment
vous
non.
Vous mentez dans les interviews
ouais,
quoi.
Ouais, bien sûr.
Ah ouais.
Et là actuellement vous mentez ou vous mentez pas
donc, non,
cite à chaque tournage je tombe amoureux de ma partenaire, ça ne veut pas dire vouloir me taper mon ou ma partenaire, attention Pio. On partage des choses très fortes, intimes, profondes.
Bien sûr,
ce sont des vraies rencontres pour moi.
Homme ou femme.
Ouais.
Mais du coup, qu'est-ce que je dois comprendre
Je sais pas, dernier coup de cœur.
Vous avez tourné avec des animaux? Comment
Dernier coup de cœur, c'était pour qui?
Fais gaffe à ce que tu vas
c'était...
dire.
Hein. Non, attendez, dernier truc que j'ai fait, c'était quoi? Merde. c'était Marie-Sophie Ferdan dans un truc pour Netflix. J'ai adoré cette actrice. Mais mon dernier vrai coup de cœur, c'est ce que fait Pio dans le film de Pierre, en fait.
Et hop, on bascule dans la pompe. C'est parti.
Oh, le métier.
C'est parti. Allez, viens nous voir.
Ça aurait pas été souligné, ça aurait été subtil.
C'est Pio Marmaille. Pio Marmaille, justement, une question vous concernant. Qu'est-ce que Pio a réussi à restaurer de ses mains?
Des motos.
C'est vrai, mais c'est pas.
Vélo.
Quelque chose d'un peu plus étonnant.
Ah, un frigo.
Non.
Un garage,
C'est un véhicule.
C'est un véhicule.
Un cheval.
Un tank.
Non.
Ah ouais.
Une carriole.
C'est une Jeep, je pense.
Une carriole.
Non.
Un camion.
Un camion. C'est hyper branché. Un camion à quoi?
Un food truck.
Un food truck.
Absolument. Bravo, Tom. Un camion à saucisses.
Il a juste rajouté des saucisses dans le camion.
Ouais.
Réparé.
Une petite gazinière avec une sorte de casserole. On va se balancer les saucisses dedans, et qu'on vendait une fortune. C'est un peu l'idée, hein.
Oui.
Tu fais la réponse, tu te démerdes avec ça.
C'est ça.
Pas plus loin. Ciao, ciao.
Vous avez pas confiance sur votre carrière de comédien?
Non, mais c'était pour faire plaisir à quelqu'un. Et ça lui a fait très plaisir.
Vous lui avez offert un food truck?
Ouais, j'ai dit, ah, tu veux un food truck? On va en faire un. Bon, on l'a fait.
Génial.
Et vous réparez aussi des motos, j'ai lu, des. Enfin, vous êtes un vrai. Vous avez un garage, tout.
J'ai un garage depuis des années, oui. Mais on fait pas de vidange, hein. C'est plus de la fabrication de véhicules sur mesure.
Et vous conduisez quoi? Quel genre de véhicule?
Je sais que ça le fait pas. Je conduis deux trucs. Je conduis une Indian et un T-Max. Donc un peu les deux trucs en même temps.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Donc c'est la passion de la moto et puis les calamars.
Et en même temps, l'efficacité aussi du scooter, parce qu'il ne faut pas non plus. On ne suis pas venu ici pour.
Non, mais c'est pas mal. On poursuit avec vous.
Il y a des gens qui ont déjà sorti des trucs plus banals à cette antenne.
Ne jugez pas. Ne vous jugez pas.
La chance qu'il fasse pas si froid. Le réalisateur qui écoute les producteurs, ils écoutent l'émission, ils disent mais pourquoi ils vendent du T-Max? Qu'est-ce qu'il lui prend? Il est complètement con. Pourtant, avec le cachet qu'il a pris.
On va relever le niveau avec vous, Vincent Elbaz. À 25 ans, Vincent a lu l'intégrale de
Proust.
Non.
Picsou Magazine.
Non plus.
L'intégrale de.
L'intégrale d'un grand auteur.
Voltaire. Français.
Vous pouvez jouer, Pio.
Français.
Éric Zemmour.
Étranger, auteur étranger.
Shakespeare.
Pas Zemmour.
Pas Dostoïevski.
J'ai entendu, ouais.
Pas Dostoïevski.
Dostoïevski.
C'est le seul étranger que je connais.
J'étais dans les cours de théâtre, quoi. Donc,
tout le monde ne lit pas l'intégrale de Dostoïevski au théâtre.
Ah ouais. Non, mais comme je devais travailler sur un texte de Dostoïevski. Non, mais il y avait cette idée qu'il fallait connaître un auteur pour le travailler. Donc, voilà.
C'est simple.
Comme il était mort et que je pouvais pas.
C'est un peu le profil d'Isabelle Carré, quoi.
Je ne pouvais pas l'appeler, j'ai lu ses bouquins.
Ok, une petite dernière sur Pio Marmaille, après on reprend en liberté, parce que je sais bien que vous êtes là pour la promo, les garçons. Comment Pio fait-il des économies sur ses fringues?
Il vend des food trucks.
Les vols. Moi-même, je ne sais pas.
En Chine,
là, vous allez me.
Gala homme en 2018.
Emmaüs. Il les emprunte et il les rend pas aux copains, non?
Non.
Il les garde. Il récupère les fringues.
C'est pas loin, Vincent Elbaz. C'est dans cette idée.
Il emprunte les fringues à des marques et il ne les rend pas.
Non plus.
Il les vole.
Non, il les vole pas non plus. Ah, quelqu'un l'a dit, tiens, Tom, t'as dit.
Non, moi, j'ai acheté sur le bon coin.
Fais
des échanges.
Ouais, c'est ça, Jérémy.
Fred l'a dit aussi.
Ah, vous gardez les habits.
Décidément, mais attendez,
je vais faire des économies.
Mais, et pas n'importe lesquelles. Tenez-vous bien.
Ah ouais. Parce qu'il attend d'autres
sur les films. Quand je finis un film, qu'est-ce que je dis? Et discrètement, je dis, est-ce que je peux récupérer les caleçons et les chaussettes? C'est tout ce que je récupère. On me vend des chemises en soie d'Autriche, de je ne sais quoi. Moi, j'ai dit, je veux juste les calbars et les chaussettes. Fin de la réponse. Ciao.
Et donc là,
c'est tout.
Aujourd'hui, c'est lequel? C'est ce qui nous lie?
Ah, je sais plus, mais en tout cas, il est tanné jusqu'à la cuisse. Je ne sais plus.
Allez, on revient en liberté de Pierre Salvadori qui sera en salle mercredi avec vous, Pio Marmaille, Vincent Elbaz, mais également à vos côtés, Adèle Haenel, Damien Bonnard et Audrey Totou notamment. On citera le casting complet un tout petit peu plus tard. Alors, on sait, moi j'ai beaucoup aimé ce film de Salvadori, c'est un film complètement improbable qui arrive... qui relève à la fois de la comédie, mais pas uniquement, ça on va y revenir aussi. Comment est-ce que Salvadori vous a abordé tous les deux? Vous, c'est pas la première fois, Pio Marmaille, vous êtes un peu la mascotte, je crois, de Salvadori.
Mascotte, je sais pas, après on avait fait dans la cour ensemble,
et
on s'était déjà rencontrés avant, pendant un festival, et je pense que c'était un truc d'amitié avant tout. Et puis après, on a pris plaisir à bosser ensemble ouais. dans la cour. Il a écrit le rôle en pensant à moi. On a réussi à monter le film et que ce soit moi qui le fasse au final, donc ça c'est pas désagréable.
Pourquoi c'était un film compliqué à monter?
Oui, je pense, ouais. parce que c'est pas évident aujourd'hui de monter des films, parce que c'est pas un film qui coûte non plus 300 francs, et puis qu'il faut... Il y a des effets, il se passe énormément de choses quoi, donc à l'image. Et c'était pas facile forcément à monter tout de suite. Mais on a réussi à le faire. Et moi, j'aime l'idée de travailler comme ça avec quelqu'un sur le long terme, comme ça, d'approfondir un peu une langue.
Ouais.
Puis c'est quelque part, c'est un peu rassurant, je trouve aussi, un peu d'avoir rendez-vous avec quelqu'un comme ça tous les 3 ans, 4 ans, 5 ans, puis Pierrot, je ne sais pas quel va être ton rythme pour le prochain, mais je suis prêt.
Et vous en êtes, ouais. Tout de suite, vous signez sans avoir rien lu.
La marmite est chaude. Ouais.
La marmite est hyper chaude. Le camion à saucisses est bouillant.
L'eau à caprice. Balancez-moi les caisses de
crayon. Message codez-vous, Vincent Elbaz, la rencontre avec Pierre Salvadori.
Oui, il m'a appelé pour ce rôle et j'adore son travail. J'ai vu presque tous ses films.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui?
Ah ben, j'aime le mélange des genres.
Ouais.
Et puis ses dialogues. Ces dialogues, ces sujets, il a des sujets originaux, il a qu'on voit rarement en France, en fait.
Et comment il vous a vendu le film? Parce que c'est ça, comment il vous l'a décrit, ce film?
Non, moi, il m'a proposé ses scènes d'action, etc. Et je me disais, voilà, faut répéter des trucs de cascade, des machins, des trucs. Évidemment, j'aime bien le faire moi-même, mais l'action, c'est gratifiant s'il y a de l'émotion à l'arrivée, quoi.
Ouais.
Et souvent, dans l'action, il n'y a pas forcément d'émotion. C'est-à-dire qu'on répète pendant des heures, on tourne pendant des jours entiers pour 3 minutes à l'écran. Et ça n'a pas d'impact émotionnel, forcément, l'action.
Même là, si vous arrivez.
Mais là, ce qu'il me proposait, cette relation avec cet enfant qui fantasme sur un papa qui est mort et qui l'imagine comme un héros. Donc ça me plaisait beaucoup.
Faut expliquer que tous les soirs, Adèle Haenel,
lui raconte
une histoire,
une scène,
où elle
une séquence,
en scène.
Voilà, ouais. Où il va arrêter des dealers, où le petit l'imagine comme un héros qui surmonte tout, qui fait des trucs de fou et
qui
tout.
Qui saute de 15 étages.
Donc c'est pour ça qu'on s'est éclaté sur le tournage, puisqu'on a détruit un appartement, on a sauté du 9e étage, tout ça, bon, voilà. Mais à l'arrivée, c'est ce rapport à la quelle vérité il est capable de supporter sur son père, cet enfant.
Ouais, et ça développe, il y a un truc d'humanité dans le film aussi. Ouais. Enfin, c'est assez dingue, quoi.
Il va se raccrocher aussi, à ses croyances sur son père et tout.
Et comment le récit évolue aussi au fur et à mesure des découvertes du personnage
d'Ivan?
Enfin,
disons que c'est ma partition dans le film.
Ouais, ouais.
Parce que, en fait, c'est l'histoire du personnage de Pio Marmaille qui sort de prison après 8 ans et qui décide de commettre des délits pour lesquels il a été accusé injustement.
En simili-cuir.
Voilà. Donc l'histoire du film, c'est ça.
Mais vous portez bien le costume.
Une bijouterie, mais ça fait pas mal.
Et donc, voilà. Donc, quand il m'a proposé le rôle, c'est vrai que ce qui m'a fait hésiter, c'était cette histoire de rapport entre action et émotion.
Ouais.
Et il m'a promis que, effectivement, ça serait que le centre de ces histoires d'action qu'il me faisait faire, c'était pour émouvoir. Donc, ça m'a plu.
Voilà. Et vous avez pas de scène en commun, c'est pas un petit...
Non, parce que moi, j'ai une partie dans le film qui est juste celle de ce gamin qui fantasme sur son père.
Ouais.
L'histoire du film, c'est l'histoire de la
rencontre. C'est pas un peu rageant de se dire que vous êtes là l'un à côté de l'autre et que finalement vous n'avez pas partagé une scène dans le film.
Cette histoire de répète d'embrassade que Vincent m'a imposée.
Je vais manger.
Il a posé tout le film dans les médias. Une fois passé ces répètes, on connaît plus
là. Non, mais ça nous a rapprochés. Aujourd'hui, on a envie de poursuivre peut-être.
De construire.
Quelque
chose, je sais pas. Des projets perso,
peut-être rélover encore un truc ensemble, je sais pas.
Alors venons-en à votre personnage, Pio Marmaille. Oui. Vous êtes en effet le personnage central du film. Cet homme qui n'avait rien demandé, qui se fait coffrer pour un vol qu'il n'a pas commis, et qui sort de prison, un petit peu déboussolé, avec cette idée assez originale, je trouve, et très touchante de Pierre Salvadori, c'est que finalement, j'ai été coupable, j'ai été jugé coupable, alors je n'ai rien fait. Oui. Maintenant, j'ai le droit de me comporter comme un fugitif, ou en tout cas, j'ai le droit de commettre des choses répréhensibles par la loi. Je dois me rattraper, finalement.
T'as un crédit.
Ouais.
Bah oui, je pense que c'est... Alors, après, là, je ne demande pas aux gens... moi, j'ai jamais pris parti. Il vaut mieux être un salaud ou pas un salaud. C'est pas une question que développe le film, dans l'absolu. Je pense que c'est surtout la légitimité de ce mec qui se trouve, qui sort de 8 ans de prison, qui n'a absolument rien demandé à personne et qui... qui est mue par une sorte de colère, une fureur absolument dingue. Donc je pense qu'en même temps une sorte de folie aussi, parce que je sais pas comment on peut réagir dans un cas comme ça. Mais en tout cas, lui, la solution qu'il trouve, sa solution, son salut, c'est bouffer les oreilles, crever les yeux des gens, tout en essayant de rester absolument normal. C'est-à-dire que c'est ça que j'ai adoré faire. Mais en tout cas, c'est toujours défendre une sorte de normalité. Enfin, un type qui tend vers une sorte de normalité comme ça et lui dit ah mais en fait tout va très bien, je vais juste chercher les cigarettes. Et malheureusement, en allant chercher les cigarettes, il se trouve qu'il braque à fond. Donc c'est burlesque, c'est extrêmement
aussi.
Burlesque, bien sûr, parce que ça pourrait être terriblement glauque, et en fait ça n'est ni glauque ni quoi que ce soit, mais il y a une forme de burlesque aussi, parce que c'est, et d'excès et de poésie à chaque endroit, parce que c'est hyper explosif, quoi. Mm-hmm. Puis c'est vrai qu'incarner un truc comme ça, cette fureur, ça demande d'aller dans un truc d'excès dans les propositions. Ouais. C'est ça que j'adore faire, quoi. Enfin, surtout avec Pierre, qui a cette possibilité-là, quoi.
Et vous donnez la sensation, en plus d'être un personnage assez doux, assez calme, et tout d'un coup, la folie s'empare de vous, et voilà, vous commettez les pires atrocités. On va être léger, parce que c'est pas non plus hyper violent.
Non, atroce,
et le personnage d'Audrey Tautou, qui est à vos côtés, qui est votre compagne, qui vous attend, on reparlera d'une scène hyper émouvante de retrouvailles, elle incarne finalement la réalité. Elle essaie de vous... Voilà, c'est un peu le fil de plomb, quoi, dans votre vie.
Oui, je pense que c'est aussi elle qui incarne cette déjà une forme d'amour. Mm-hmm. C'est-à-dire vraiment cet endroit d'amour simple qui existe, le seul endroit qui existe encore pour ce mec. Et je pense qu'elle incarne aussi ça, cette position comme ça, de cet endroit de salut, quoi, quelque part, qu'il ne s'en rend pas forcément compte au début. C'est vrai qu'il y a la rencontre avec Adèle comme ça, qui est un peu comme une sorte d'ange qui apparaît, un truc un peu ultra poétique, ultra fort, quoi, un truc qui le fait basculer justement dans cette légitimité, qui l'encourage, qui lui dit mais vous avez aussi le droit,
vous pouvez déconner.
Alors, vous avez le droit de déconner, vous en avez pris plein la tronche. Et il y a cette... Enfin, en tout cas, la place des femmes comme ça, dans ce film, en tout cas, les deux figures féminines, je les trouve assez... assez percutante, quoi, et pas dans la simplicité comme ça, gnagnagnac, voilà, c'est un nouveau mot.
Il y a aucun gnagnagnac.
C'est un peu musical et un petit peu.
Il y a une sorte de triangle amoureux aussi, quelque part, parce que finalement, Adèle Haenel, elle se sent coupable pour le crime commis par son mari, le flic ripoux, et elle se sent dans l'obligation de vous accompagner un petit peu dans vos délires, et elle y retrouve même une forme de poésie, elle aussi, de folie du quotidien, de l'existence.
Mais je pense qu'elle a elle aussi est dans une sorte d'urgence. C'est une femme qui est aussi, je pense, brisée à partir du moment où elle comprend qu'elle a vécu dans l'illusion totale de ce mari qui était censé être une figure pour qui on érige une statue comme ça au milieu de la.
Quelle statue
évidemment, et que d'un coup elle se rend compte qu'en fait c'était une raclure. Donc c'est sûr qu'il y a une sorte de oh mince, en fait finalement c'était une raclure.
C'est
la femme choquée.
Il ne faut pas les retenir.
C'est l'accent de la femme choquée.
Et d'un coup, c'est sûr qu'il y a une sorte de désillusion monstrueuse, quoi. Ouais. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû rester...
Dans l'accent de la femme choquée, finit par avoir Leïla. Omar Maïla et Sorel Bas sont avec nous jusqu'à 12h30 pour En Liberté, qui sort dans deux jours, le 31. Tom Villa, ce film va être un succès énorme.
Évidemment.
Mais pourquoi ?
Parce que déjà le film est bien,
d'accord.
Et c'est pas tout le temps le cas. Puis surtout parce que la com du film a été menée d'une main de maître. Vu que le film est bien, il y a eu des bonnes critiques dans les journaux. Et quand il y a des bonnes critiques dans les journaux, qu'est-ce qu'on fait ? On les montre sur l'affiche. Alors, je me permets de parler de ce phénomène parce qu'avant, on en mettait une ou deux, et enfin les meilleures, enfin les seules bonnes qu'on avait. Mais là, comme le film n'a eu que des bonnes critiques, ils ont tout mis sur l'affiche. Je vous laisse regarder sur Internet. C'est la moitié de l'affiche de En Liberté. C'est les critiques. Donc, fait rire et très fort Le Monde, rire en cascade Télérama, la comédie de l'année Le Figaro. Je sais pas ce que c'est dit le mec de la com de votre film, le nom des comédiens, on s'en fout. Ouais. Leurs photos, on s'en fout. On va mettre en avant le Figaro qui fait des saltos arrière. Ça va leur faire plaisir. Non mais c'est vrai. Et encore, vous, le choix des critiques mis en avant est cohérent. Mais il y a des fois, il y a des trucs, c'est assez violent. C'est un très bon film, le Figaro. Le film de l'année, Picsou Magazine. Alors, quand c'est pour le dernier Disney, tu dis, bon, c'est normal. Mais quand c'est pour le dernier film des Dardenne, tu dis que le mec, on ratissait très très large à la com. Non mais c'est vrai, les mecs de la com, dès qu'il y a une bonne critique, ils s'en foutent d'où ça vient. Le Figaro, les Inrocks, Mickey Parra, le chasseur français, têtu, les Inrocks. L'Argus, Sanglier Passion, des fois c'est plus une liste de critiques, c'est les commandes d'un relais H. Et puis il y a la technique aussi, quand tu mets des critiques de presse sur l'affiche, tu gardes qu'un bout de la phrase, gag très drôle, À la base, c'était malgré quelques gags très drôles, l'histoire peine à avancer et finit lourdement avec très souvent des blagues en dessous de la ceinture et des comédiens à la ramasse. Mais là, le plus beau, et c'est déjà arrivé quelques fois, dont sur l'affiche de Gravity, vous savez, les mecs de la com avaient ajouté sur l'affiche du film des critiques de spectateurs de Twitter. Donc, à côté de « À couper le souffle » du Hollywood Reporter, il y avait « La meilleure 3D de tous les temps » signée « @mat7hd ». Donc là, moi, j'ai envie de dire « Allons-y ». Le film est fabuleux, signé Michel, vendeur pendant 3 ans chez Vidéo Futur. Ou encore « On voit bien que le réalisateur a mis tout son cœur », signé Martine, la mère du réalisateur. Non mais moi, je me permets d'en rire parce que j'ai vu votre film et que je le trouve vraiment formidable. Je vous ai mis 4,5 sur Allociné, donc ça, tout le monde est d'accord. Mais là, pour votre film, on a du jubilatoire, la comédie de l'année, ultra jouissif, on a 2 doigts de orgasme garanti. C'est plus une affiche, c'est un dépliant pour un salon de massage thaïlandais. Et en même temps, je comprends, les journalistes aiment, le disent, autant en profiter. Après, pour les films que la critique défonce, c'est vrai que c'est plus compliqué pour faire une affiche. Quoi. C'est tout de suite moins vendeur si t'as une affiche, ça fait « mouais, bof ». Mouais. N'y allez pas, sauf si vous avez du temps et de l'argent à perdre. Fourrure pas garantie du tout, mais bon, après, c'est quand même pas très sympa pour Ala 2. Alors, en tout cas, moi, je me suis vraiment bien marré, signé Toto le Fifou. D'ailleurs, si vous voulez me rajouter sur l'affiche et dégager les Azaroc, ça serait avec grand plaisir. Bonne émission.
Bravo, merci, Toto. Bravo, Toto. Moi, ça faisait un petit moment que j'avais paré comme ça, parce que je trouve que justement le
signé Leïla la déglingo.
Ouais. Non mais c'est, non, vrai, sincèrement, ouais. J'ai trouvé que c'était hyper bien fait de bien vu de la part de Salvadori parce qu'il cherche pas à nous faire rire à chaque seconde, parce que finalement le sujet est quand même assez lourd au fond, un homme accusé à tort qui retrouve la vie et qui est complètement perdu finalement pour l'existence, pour l'amour, pour tout ça. En tout cas, il donne cette sensation là. Mais quand on voit une scène, je sais pas, de braquage d'une bijouterie en combinaison latex avec un godemiché géant. Enfin, je me dis, mais ce type.
Quoi
est... Non, c'est pas ça.
Il y a du sex shop dans le film. Il y a du sex shop.
Oui, il est géant.
Bah, si, il est géant. Si, il est géant. Attends, enfin, Daniel. Ouais, bon, d'accord. Ça, c'est un problème de proportion, comme toujours. Mais ce que je veux dire par là, c'est que.
On est sérieusement en train de parler de ça.
Ouais, on est en train de parler de ça.
Mais, je pense juste vérifier. La bande originale.
C'est ça. Merci beaucoup, Jérémy, pour cette voix. Mais non, vraiment, j'ai trouvé que le film était incroyablement bien bâti parce qu'il oscille. C'est pas vrai.
Pardon, mais c'est.
Non, parce que non, sincèrement, on oscille vraiment avec des vrais moments de comédie. On a parlé de burlesque tout à l'heure, de gags qui sont assez insensés, et puis une émotion qui est pure et qui est vraiment évidente à sentir. Alors comment est-ce qu'un réalisateur comme Salvadori arrive à vous diriger aussi précisément, parce que c'est hyper précis dans le jeu, que ça soit le vôtre, celui d'Aden Allen d'Audrey Tautou. C'est d'une précision assez folle. Quel genre de réal il est sur un plateau? Je l'imagine pas dans vous disant improviser, débrouillez-vous.
Non, non, non. Ouais. Alors moi, je pars toujours du principe que. Non, non, non. Vous avez vu?
Non.
On est dans la contradiction.
Non. Ce qui est, enfin moi, je trouve souvent indispensable, surtout dans le cadre de la comédie, c'est ce que propose, enfin c'est ce que fait Pierre,
ouais.
C'est que pour trouver de la liberté, paradoxalement, il faut un cadre assez fort, en tout cas, qui est lié à l'écriture. Qui est lié à un directeur, qui doit être un metteur en scène, qui doit être fort aussi dans les directions et directif, parce qu'on peut pas, là en l'occurrence, le texte était absolument pas improvisé, c'était tout ce qui est dit est écrit quasiment. Enfin, il y a des petites choses
à la marge,
qui sont rajoutées, ouais. Mais qui sont vraiment symboliques, parce que je pense que dans l'exercice de la comédie, il faut qu'il y ait une écriture, il faut qu'il y ait un sens du rythme, il faut qu'il y ait quelque chose qui soit une sorte de squelette. Hyper dessiné dès le début. Et ça, c'est vrai, ouais. Que Pierre Salvadori, il a cette capacité-là. C'est vrai que dès la lecture, je sais pas ce que t'en penses, mais dès que j'ai lu le scénario, c'était d'une évidence folle, quoi. Tu disais, putain, là, ça fonctionne. Ça va exploser, quoi. Ça ne peut que exploser, quoi. Et en plus, il y a cette capacité de désamorcer, si vous voulez, aussi les directions que peut prendre une séquence, qui peut partir dans un truc un peu pathos ou quoi que ce soit. Et à chaque fois, c'est désamorcé. Et à l'inverse, dans l'humour, tout de suite, paf, on monte, ça n'arrête pas de monter, quoi. Viens-y, le 31. Viens-y, vite.
Et puis, Adèle Haenel, qu'on voit pour la première fois dans un rôle un peu différent de ce qu'elle a pu incarner par le passé au cinéma, cette dimension comique, aussi qu'on ne lui connaissait pas. Et quel genre de partenaire c'était avec vous?
Ah, moi, je suis pas très objectif parce que c'est une, comme on est amis dans la vie.
On l'a jamais vu dans ce registre-là, en fait.
Non, moi, je l'avais déjà vu comme ça dans la vie privée.
Ouais.
Normal. Mm-hmm. Mais c'est vrai que, peut-être que c'était aussi une. Il y avait peut-être moins de propositions à un moment, et puis je pense que c'est une. Il y a que Pierre Salvadori qui écrit comme ça, donc c'est vrai qu'il fallait peut-être attendre qu'il écrive aussi un scénario. Mais je pense que c'est. De toute façon, on fonctionne un peu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a ce truc ludique. que ce soit dans un film dur ou dans un film burlesque, explosif et absolument hilarant. Et ce qui compte, c'est de voir des sentir que tu t'amuses avec des partenaires, c'est ça qui fait que ça fonctionne, je crois.
C'est une vraie révélation là, d'Hélène dans ce rôle-là. On lui offre une partition qu'elle n'avait jamais pu jouer par le passé, et je trouve que ça lui va très très bien. C'est alors que on associe plutôt Adèle Haenel à des films un petit peu plus sérieux, voire engagés. Là, sa filmographie, j'ai la sensation avec Pierre Salvadori, elle se renouvelle tout d'un coup.
Ouais, puis parce que je pense qu'elle c'est aussi une envie comme ça. Je pense qu'elle avait toujours envie de faire ça, mais en France c'est très étonnant parce qu'une fois qu'on commence à faire un truc qui fonctionne un peu,
après la meuf,
c'est tracé pour 45 piges. Moi, je trouve ça un peu dommage.
Pas vous.
Je pense que c'est une question.
J'ai pas la sensation de vous voir enfermé dans un genre particulier.
Parce qu'il y a peu, j'espère pas. Enfin, en tout cas, moi, j'essaie
de prendre les directions.
C'est une préoccupation importante. Ça ne me bouffe pas la vie non plus. C'est-à-dire que je ne me couche pas le soir en me disant, bon Dieu, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire après? Non, mais c'est important de se surprendre soi aussi, quelque part.
En tout cas, les films Combinaison Latex, ça vous va très très bien.
Alors, ça, par contre, je ne le referai pas tout de suite.
Non, pas tout de suite, pas maintenant.
Parce que c'est pas facile, c'est comme si on était à poil en fait. Hein. Le simili cuir, c'est agréable parce que c'est une matière qui est un peu qui projette la peau, qui fait respirer, et qui permet aussi à l'air de passer dans les parties intimes et fraîches.
Non, moi j'attendais.
Mais c'est vrai que
j'attendais la question sur le latex parce que il est très attaché à la matière. On est très précis sur le. C'est pas du latex.
En tout cas,
c'est
dans le film.
Je pense que
dans le film, on voit
c'est un acteur.
C'est de la belle étoffe.
Il a dû enfiler ça tous les jours pendant je sais pas combien de temps ça a duré.
Quinze jours,
je sais pas. Et donc quand tu lui dis de la texte, il peut pas.
Non.
Il peut pas. Attendez, non. C'est du simili cuir.
Qui dit la texte, dit talc. Qui dit enfilage de trucs. C'est le seul.
On a quelqu'un qui l'a vécu. Donc c'est pas pareil. C'est quelqu'un qui est presque traumatisé.
On parle quand même d'un acteur qui garde ses slops de tournage. Donc
c'est vrai. Mais je pense surtout le moment le plus troublant que j'ai qui est lié à cette matière, à cette étoffe, c'était le jour où on est allé chercher le truc dans la boutique. Boutique gigantesque. Sous terre, je ne savais même pas qu'on pouvait.
Tu peux citer la marque, t'as bien cité Yamaha.
Le type qui nous a accueillis était incroyable, quoi. Il nous vendait des accessoires. Bref, je vais pas aller au bout du truc parce que.
C'est dommage.
La base de.
De découverte.
En tout cas, si vous voulez voir Pio Marmaille en simili-cuir. Sky, c'est après-demain, 31 octobre. En liberté, ça s'appelle. Oui, En liberté de Pierre Salvador. Oui, voilà, je l'ai déjà dit une fois, pas la peine de le dire.
Et on passe maintenant à Jérémy Crédville, La Bonne Humeur. Est-ce que c'est La Bonne Humeur?
Oui, sans doute.
On va l'accueillir pour un extrait.
Je trouve vraiment que vous êtes des sales rats dans cette émission.
Ah bon?
Merci.
Écoutez, la semaine dernière, personne ne m'a prévenu que c'était les vacances. Du coup, j'étais tout seul dans ce studio pour écouter les rediffs. Ah, c'était glauque. D'ailleurs, faudra penser à dire à Nagui qu'on a repris, puisqu'il n'est pas revenu, à moins qu'il soit assis quelque part. Nagui? Nagui? Non, bon, il n'est pas là. Muriel? Je sais pas, on a changé d'heure, elle a peut-être changé de prénom. Bon. Lors de ma dernière chronique, j'avais dit que j'aborderais tous les lundis des faits divers. En fait, non, je vais aborder des faits plutôt insolites. Et à l'approche de la fête des morts, j'ai trouvé dans le West France... Tiens, on dit le West France ou l'Ouest France? Bon, disons Bretagne, voilà. Donc, j'ai trouvé dans le Bretagne... Ah oui, mais non, on dit la Bretagne. Oh putain, font chier les régions et de genre. T'as pas eu. Bon, je peux passer à l'article? Oui. Bon, donc parlons morts. La Toussaint. La Toussaint, c'est Noël, mais pour les personnes décédées. Hein. On se pointe une fois par an pour faire notre béa, c'est comme les enfoirés, sans caméra, ni mimimati. Donc j'ai trouvé, dans un article, qui parlait de Monukea. Hein. Qu'est-ce que Monukea? Monukea, c'est certainement la contraction de monument et de Ikea, à savoir la tombe à monter soi-même au cimetière. Ça existe, vraiment. Les fans de Lego pourront donc s'amuser à construire la tombe de papy. Pour la modique somme de 1 790 €, vous recevrez sur une palette plusieurs blocs de granit à manipuler à deux. Hein, donc il faut au moins que le mort ait deux amis, et deux amis costauds, parce qu'il y a des blocs qui pèsent 80 kilos, soit plus que le mort. Ça donnera lieu à des conversations de déménagement, hein, quand tu tapes la machine à laver à monter au troisième sans ascenseur avec ton connard de beau-frère. Attends, j'ai pas de prise. Non, attends. Pause. Ah putain, mon pied. Ah putain, Jean-Louis, tu pourrais nous aider au lieu de rien foutre. Il est mort, Denis. Ouais, y a toujours une excuse. Avec ces blocs, vous avez aussi une notice de montage en papier à suivre à la lettre, parce que si vous mettez le couvercle de la stèle en dessous au lieu d'au-dessus, eh ben on voit Jean-Louis. Il y a également un tube de silicone, mais je connais pas bien ce groupe, ça doit être des champs mortuaires. Sont livrés enfin des chevilles de fixation et des équerres, certainement pour faire des triangles rectangles en guise d'épitaphe pour les férus de géométrie. hein, avec le kit Monukea, il y aura sûrement des épitaphes du genre « on savait pas quoi faire de cette pièce en plus » ou bien « Pierre et Estelle ont monté Pierre et Estelle », hashtag jeu de mots, ou encore « 50 ans à te supporter, 50 heures à t'enterrer ». Il ne vous reste plus qu'à vous munir d'un marteau, d'un niveau et d'un serre-joint pour effectuer le montage vous-même. Donc, pour les moins bricoleurs, à la moindre toux suspecte de mamie, commencez le bazar. Hein. Et pour les gens qui se suicident et qui veulent tout faire eux-mêmes, pensez à construire votre Monukea avant de passer à l'acte. Sinon, il y aura un mort et une palette. Les particuliers économisent 700 euros sur la pose de la stèle puisqu'ils le font eux-mêmes. Ben moi, je leur propose d'économiser le Monukea et le prix de la pose juste en achetant une pelle. C'est plus pratique. L'un des arguments de vente de l'inventeur du Monukea est que les gens sont capables de monter une cuisine, pourquoi pas un monument funéraire.
C'est vrai.
Et ben peut-être parce qu'ils sont décédés. Voilà. Non, parce que sinon, moi j'invente Crémakea, hein, les gens sont capables de faire du feu, pourquoi pas ne pas brûler leur mort eux-mêmes. Astreint là, bientôt les bébés monteront leur berceau eux-mêmes et s'auto-allaiteront. En tout cas, moi je suis content, j'ai acheté un fin de chroniquea, ce qui me permet de terminer ma chronique d'un simple claquement de doigts. Claquement de doigts.
Oh. Merci Jérémy Crédit. La bande originale. Sur France Inter. Bande originale avec Pio Marmaille, Vincent Elbaz pour En Liberté, ce film en similicuir qui sort le 31 octobre, c'est-à-dire...
C'est important les matières.
Dans deux jours, c'est important, ouais. La belle matière, la belle étoffe.
Ça va être l'épitaphe de Pio Marmaille, aimer les matières.
Meine Licht par Lem, c'est un petit hommage à Jair Bolsonaro, le nouveau président.
C'est Merlicht.
Merlicht.
C'est pas Mein, c'est Mer.
Ah, Merlicht. Et en tout cas, c'est maintenant.
Faudrait qu'il fasse quand même beaucoup plus clair. Car en même temps que celle de la lumière, c'est la question de l'éclairage qui se pose. Orage, orage, et tout le reste, c'est de la prose. Et Eddie Constantine se lève. Sur pellicule, c'est toujours beau. Et va se servir un verre. Beaucoup de whisky, un peu d'eau.
Asiates et tout, tu vois.
Ouais, les Asiates, voilà, et tout, comme disait Tom Bella, bien
ça.
Sûr.
C'était des Vincent Elbaz.
Merlicht, l'aime.
Droite en Europe.
Bon, voilà, sur France Inter. Mes amis, attention, nous allons passer à la bande originale, celle qui a émaillé votre vie, en tout cas une partie de votre vie. Mais si on commence avec les années 1984-1986, et vous, Pio Marmaille, vous écoutiez.
Grand classique.
Lerita Mitsuko avec Marcia Baila.
Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Pourquoi vous avez choisi Lerita Mitsuko? Parce qu'on connaît un peu vos bandes son.
J'ai tapé sur internet musique 84. Et quel est le truc qui va me donner un peu d'énergie lundi matin? Eh bien, je réponds. Non, mais en plus, c'est vrai que j'écoutais un peu ça parce qu'il y avait une sorte d'énergie chez ces gens. Il y avait une sorte de truc de liberté. Enfin, ça n'a rien à voir avec le film en lui-même, mais ouais, je me suis dit, ils ont l'air complètement explosifs ces gens. Donc, je trouvais ça assez. C'est touchant.
Et il y avait cette liberté là aussi chez vous. Votre mère était costumière à l'Opéra de Strasbourg et votre père était scénographe. il y avait cette énergie aussi, cette liberté pour reprendre le film.
Ah ouais, non-stop, c'était vraiment un foyer de création H24, quoi. Peut-être même un peu trop, parce qu'un jour j'avais dit à mes parents, parce qu'ils faisaient souvent, il y avait souvent des gens qui venaient, des plasticiens, des chorégraphes, des gens comme ça. Et donc c'était toujours un espèce de vivier de trucs. Et à un moment j'avais dit, mais c'est quand que c'est, ce sera quand mon spectacle?
Ah.
Et là, mes parents se sont dit, je pense, oh bon Dieu, il va falloir qu'on s'occupe plus de notre enfant, alors qu'en fait ils s'en occupent très bien.
Mais comment il s'appelle déjà?
Non, je peux dire, mais c'était vraiment super, quoi. Il y avait cette folie, quoi.
Et ça apporte quoi, ça, dans la vie aujourd'hui? Par rapport à une éducation où il y aurait moins de personnes qui défileraient à la maison, moins de professions différentes comme ça.
Bah, tu fais du ciné, tu fais des food trucks, tu fais ce qui te plaît.
Oui, je pense qu'ils m'ont surtout rendu curieux, enfin un rapport à la vie comme ça, sans être je pense que ça crée de la curiosité, quoi, chez moi. J'ai envie d'essayer plein de trucs, enfin en tout cas sans attendre de résultats quelconques, enfin c'est-à-dire m'autoriser de tenter des trucs un peu à droite à gauche. Attention, là je parle de fabrication et de création. Hein.
Bien sûr.
Attention.
Ouais, rien de répréhensible par la loi, bien entendu, que Marmaille, ça, non. Et vous avez commencé très très tôt sur scène aussi.
Oui, quand j'avais 5 ans, je pense. Il m'avait mis des petites ailes d'ange et j'étais à l'Opéra de Strasbourg. Et je crois qu'il fallait que je tire au sort un gagnant d'un concours, je ne sais plus quoi. Il m'avait dit, allez, vas-y.
Mais c'était l'opéra ou un bingo quand ça...
C'était un bingo. C'est le mix entre l'opéra et bingo. Il y a beaucoup de vieux, on va jouer un peu de classique et puis on s'éclate tout le dimanche.
Ça veut dire que vous avez joué régulièrement comme ça, enfant, sur des...
Oui, je faisais la figuration à l'opéra, oui. Et j'aimais bien ça, ouais. Je trouvais ça assez. Parce que je me disais, ah, tiens, le soir, comme ça, je vais pas me coucher et je fais le con sur scène. C'est ça que je faisais.
Et vous, à la même époque, Vincent Elbaz, vous écoutiez.
Les anciens. Classique, musique 84.
Téléphone, classique. Un autre monde, classique.
Classique, classique.
Pourquoi cette chanson, Vincent Elbaz, ouais?
Mais parce que j'écoutais les Rita Mitsouko. Également.
Et que. On n'y arrivera jamais avec eux.
Non, mais voilà. Non, mais ça fait partie des trucs qu'on écoutait. Bon. Ouais. Non, mais téléphone, ça fait. Je sais pas, non. Vous écoutez pas téléphone à l'époque? J'écoutais pas téléphone.
Non,
pas
non.
Je crois que tout le monde écoutait ça. Voilà, non mais je voulais une réponse plus personnelle là.
Bah ouais, c'est votre BO.
Ouais, non mais c'est vrai que je me faisais des films là-dessus sur cette chanson, je sais pas. Puis c'était le début des clips téléphone, ils avaient un super beau clip, je me souviens.
Et à cette époque-là, vous rêviez déjà d'être comédien.
Ouais. 84, ouais.
Ouais,
oui.
Je crois que vous commencez les cours.
Oui, 83, ça a commencé en 83.
Ouais, dans une MJC.
Ouais. Ouais, c'est un pote qui m'a, mon meilleur pote, il m'a rappelé ça il y a pas longtemps, il m'a dit la première fois qu'on s'est croisé, donc c'était à la MJC, et il pleuvait à torrent, on est sorti, tu m'as dit je te ramène, et t'avais les clés de la bagnole. Et il m'a dit j'ai pas compris pourquoi à 15 ans t'avais une bagnole. Et j'avais zappé cette histoire, effectivement, j'allais en bagnole, parce que j'habitais en banlieue. Et donc, du coup, je prenais.
Ah, ça justifie!
Oui, c'est vrai,
j'allais en bagnole,
permis,
et vous conduisiez à 15 ans.
Et du coup, j'ai conduit sans permis pendant des années, comme un con, quoi. Ouais.
Il y a une forme de liberté aussi, là, j'ai l'impression.
Non, mais je pense que, je sais plus pourquoi. Non, mais il m'a raconté il y a 2-3 jours, c'est pour ça que ça me fait penser à ça. Mais je sais plus pourquoi, comment mes parents ont pu me dire. Oh, tu fais chier, prends les clés de la bagnole. Je sais pas comment j'ai réussi. Je sais pas. C'est un mystère. J'ai oublié comment j'ai.
Vous avez appris à conduire quand même.
Ouais.
Oui, non, mais c'est une époque. Non, c'est pas laisser partir comme ça.
C'est une époque. Vous avez pas vécu ce truc-là, des parents qui vous apprennent à conduire sur le supermarché, sur le parking du supermarché. Moi, c'est ça, on m'a appris à conduire comme ça.
Sauf qu'il n'y avait pas ses parents. Voilà.
Et donc, je me souviens.
Et vous ont laissé faire de la même manière.
J'associe ça à 1984. Bah oui, c'est parce que c'est les débuts des cours de théâtre.
Et vous ont laissé de la même manière conduire et aller apprendre le théâtre. C'était fais ce que tu veux si ça te fait.
Ils m'ont soutenu. Moi, ils m'ont toujours soutenu. Non, mais on aimait bien on avait une admiration pour les. Ouais, pour les artistes, les chanteurs, les rockstars, les peintres. Ouais. On avait dans ma famille, j'ai réalisé qu'on avait une admiration pour les
saltimbanques, tout ça.
Ouais, pour les marginaux, pour les ouais. Et donc une grande admiration pour les acteurs et les comédiens de théâtre.
Année 2001, 2002, Pio Marmaille, vous écoutez.
C'est quoi les paroles?
Cardabroni.
C'était juste avant qu'elle parte avec le petit,
Monsieur
Vénère. Elle a beaucoup changé d'ailleurs. Cette chanson s'appelle I Love Hardcore Boys. d'un groupe qui s'appelle Limbrist. Oui, bah évidemment, vous allez me dire, l'évolution est un peu radicale, et c'est un peu le cas. Mais c'est, alors, ça correspond à quelle période de ma vie, ça?
C'est 2001.
2001.
Ouais, vous êtes en Italie, vous suivez des cours.
Je faisais la Commedia dell'arte, mais
pas mal bol.
Pardon ?
Un certain ras-le-bol ?
Non, pas du tout. Au contraire, ça peut être, ça peut, c'est le hardcore, c'est une chanson, enfin c'est un type de musique qui peut paraître un. Il y a une forme de révolte, évidemment, mais il y a une douceur aussi chez les mecs qui chantent. Mais je sais que tout le monde
le capte. Là, elle frappe pas au premier écoute, mais.
On s'en rend pas forcément compte. Mais moi, j'ai rencontré ce milieu-là. Un peu en Italie, et surtout en fait, quand j'étais à Saint-Etienne à l'école.
Au Centre Dramatique,
ouais. Et c'est vrai que moi, ça a vraiment bouleversé mon rapport au travail d'acteur, je pense, parce qu'il y avait une sorte. Alors, c'est pas du tout la même chose, mais il y avait une sorte de générosité en live chez les mecs que j'ai vu jouer, en tout cas, d'autres groupes, Vomit for Breakfast ou Logistique ou des.
Vomit for Breakfast, ouais, c'était votre groupe.
C'est génial. Ouais, c'est un d'autres groupes que j'ai vu, mais des groupes un peu assez mythiques quand je les ai vus jouer, ça a fait écho à un truc où je me suis dit, enfin en moi, où je me dis, il faut, quand tu peux pas arriver sur un plateau, être un peu mou, être un peu dans la plainte, quoi. Ces mecs-là, ils y vont, ils sont d'une une générosité sans limite aucune. Et moi, ça me touche, quoi. Donc je me dis, quand je bosse, je me dis, je au minimum, il faut que je sois comme ces gens-là, quoi.
Ouais.
Qui en ont absolument rien à foutre de la condition musicale, enfin de comment ça a fonctionné. Ils y vont, ils t'envoient le truc dans la tronche pendant 15 minutes. Le set, il fait 12 minutes. Et puis tu le prends comme tu peux, mais moi
c'est l'énergie à l'état brut. Quoi.
Ouais, moi ça me touche beaucoup.
On peut le réécouter deux secondes pour essayer de choper la douceur.
Non, ça c'était. Non.
Je l'ai, absolument, je l'ai tout de suite.
Et qu'est-ce qui vous fait passer, Pio Marmaille, avant Saint-Etienne, par cette école en Italie de Commedia dell'arte, où là on est plus sur le burlesque, justement, pour rejoindre un petit peu votre partition dans le film de Salvadori?
Bah, je pense que c'était un truc qui est lié à mes parents aussi, enfin en tout cas, j'ai toujours adoré travailler au masque, enfin en tout cas c'est un truc traditionnel italien.
Ouais.
Et après j'ai fait du masque neutre aussi, d'autres choses, mais je sais pas, il y avait un truc, je sais pas, sur le ça me permettait d'être plus, peut-être d'être un peu plus caché, je sais pas, de me sentir plus à l'aise sur un plateau ou un truc comme ça.
Pour commencer, ouais.
Ouais, pour commencer. Puis il y avait aussi un truc qui allait au corps aussi beaucoup, parce que c'est dans la Commedia dell'arte, il y a un truc où c'est très codifié, je veux dire, chaque personnage correspond à un certain code physique. Et je pense que j'avais besoin de ça. Encore une fois, ça rejoint cette idée du cadre, probablement, et de l'explosion, parce que on faisait un spectacle par jour. On faisait des canevas tous les soirs. Donc, il y avait un truc aussi de répétition, d'efficacité, quelque
Vous
part.
Vous aviez
aussi.
Quel personnage?
Moi, je jouais à Internato, un valet, et j'avais, d'ailleurs, les trois quarts du temps, j'avais pas de masque, j'avais que le visage blanc. Et sinon, je faisais Harlequin, quoi, en gros. Je faisais plus ça. Et c'était donc je mettais des coups de pied, je mettais des tartines dans la tronche. C'était
assez drôle. La vraie farce.
Et oui, c'était, enfin moi je sais pas, ça m'a fait beaucoup de bien. Et puis physiquement c'était super, quoi. Moi j'ai trouvé ça ça te forme, quoi. Tu peux pas, t'arrives, il faut sauter partout, crier machin, bim bam boum, c'est hyper efficace, quoi.
Puis vous donnez la sensation que vous avez besoin de vous dépenser un peu, j'ai l'impression.
Là vous voulez dire parce que je fais comme ça avec mes bras
tout le temps, parce que
j'ai bu trop de café. Non mais je sais pas, non mais ouais, c'est ça, ouais. Moi j'ai besoin de m'agiter, quoi.
Si vous voulez, vous pouvez cogner Tom Villa, il est juste à côté, il est lui aussi la porte.
On le fait régulièrement. Me touche pas.
Mais 2001-2002, vous, Vincent Elbaz, vous écoutiez. Cypress Hill.
Plus cool.
Ouais, Cypress Hill, je sais pas, j'écoutais ça énormément. J'adorais ce son-là. J'écoutais Reda, le Wu-Tang, tout ça, le rap américain.
Et à cette époque-là, vous êtes dans Rue des Plaisirs de Patrice Lecomte.
Ah ouais, c'est vrai. D'accord, ok.
Quel souvenir vous avez de ce film? Parce que je crois que vous rêviez de jouer avec sous la direction de Patrice Lecomte.
Alors j'ai toujours adoré ces films, mais j'ai rencontré un metteur en scène en France. C'est un peu, comment dire, ce mec, ce réalisateur, ça, pour moi c'est un grand metteur en scène, mais il écrit pas ses scénarios, donc en France il est un petit peu je trouve déconsidéré, mais il est pas là où il devrait être, je trouve, mais, parce qu'il écrit pas forcément ses scénarios.
Il laisse plus de part à l'impro, donc
Non, si c'est très écrit, parce qu'il a des scénaristes qui écrivent des scénarios, etc. Et c'est très écrit. Et non, mais moi j'aime beaucoup le cinéma de Patrice Lecomte. Et j'ai adoré travailler avec lui. Voilà.
Et le film n'a pas marché, je crois.
Le film n'a pas marché, ouais, c'est possible.
Comment on vit ça? Parce que l'échec pour un réalisateur, c'est une chose. On imagine clairement 2 ans, 3 ans de sa vie. Mais pour un comédien qui participe à une telle aventure, comment on le vit?
Moi, j'ai tendance à penser que ce qui fait travailler un acteur, c'est. Heureusement, c'est pas que les succès du box-office, parce que c'est rare.
Non, mais est-ce qu'on se sent responsable ou co-responsable d'un échec?
Bah, je préfère, quand je fais quelque chose, je préfère que ça rencontre le plus de public possible. Ouais. Hein. Après, j'ose espérer que c'est la qualité de mon travail dans un film qui fait que des metteurs en scène après m'appellent, quoi.
Ouais.
Et qu'ils s'arrêtent pas que au nombre d'entrées, parce que sinon, je travaillerais plus depuis des années, moi. Je fais un succès, ça m'arrive une fois tous les... C'est rare, quoi. Enfin, non, mais je sais pas.
ça va nous arriver avec Kyo.
Ça va nous arriver
avec Kyo, là, des mercredis.
C'est sûr.
Bon, là, je suis dans le jeu, alors ça marche bien, bon, etc.
Oui,
mais je veux dire, non, mais justement, avec Rojdi, Zem, avec des copains du jeu, on se disait, mais c'est suffisamment rare pour l'apprécier.
Ouais.
Mais heureusement qu'on travaille pas que grâce au succès du box-office, puisque mais j'ose espérer que les grands metteurs en scène comme Audiard, comme je sais pas Salvadori, comme ils attendent pas quand ils font leur casting, quand ils choisissent des acteurs, ils se disent pas tiens lui il a fait un film qui marche, je vais le prendre. Enfin, c'est ils fonctionnent pas comme ça, ces gens là c'est,
et je crois que ça fonctionne donc, plus comme ça aussi,
donc non mais c'est important,
on dit qu'on monte des films sur des noms,
c'est
donc
quand même important
bien dire,
si oui, disait le film il a coûté très cher de Pierre Salvadori, il faut le monter sur lui, sur Adèle Haenel, sur Audrey Tautou, sur forcément faut. C'est bien si ça marche, c'est sûr. C'est mieux.
Grosse pression pour vous, quand même. Hein. C'est sur vous de les aimer.
Merci d'aller les détendre.
En tout cas, si vous voulez que ça marche, allez-y à partir du 31 octobre, c'est-à-dire dans 2 jours, en liberté. Pio Marmaille et Vincent Elbaz sont avec nous.
La bande originale. Sur France Inter.
Et pour aborder un aspect du film, nous a rejoint Raphaël Miljkovic. Vous êtes psychologue thérapeute familial.
Bonjour
Raphaël. Bonjour. On va parler justement de l'absence d'un parent, puisque un des motifs d'émotion dans le film de Salvadori, c'est la disparition du père que la mère essaye de ressusciter tous les soirs par l'histoire, le mettant en scène comme un héros. On se demandait, l'enfant est petit dans le film, il doit avoir quoi, 6 ans, grosso modo. À partir de quel âge on peut parler de la disparition d'un parent à un enfant, et comment est-ce qu'on aborde cette question?
Alors, en fait, dès le plus jeune âge, l'enfant, disons qu'il a un environnement qui est a priori stable autour de lui, et il va repérer quand il y a quelque chose, un gros changement qui se produit.
Oui.
Donc, il n'y a pas vraiment d'âge pour qu'il se rende compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Évidemment, la disparition d'un parent, c'est pas sans affecter l'autre parent. Donc, il y a tout ce qui entoure aussi la disparition qui est perceptible par l'enfant. Même chez un bébé. Après, pour
même chez un bébé.
Un bébé est très sensible à tout ce qui se passe, et il peut se rendre compte d'un changement d'habitude, d'un changement d'environnement, qui s'occupe de lui, les personnes qui s'occupent de lui, est-ce qu'elles se comportent comme elles le font d'habitude, est-ce qu'elles se sentent comme elles se sentent d'habitude, etc. Donc il y a plein de facteurs que l'enfant perçoit. Après, pour vraiment saisir, comprendre ce qui se passe, c'est plus vers aux alentours de 7 ans que l'enfant peut comprendre que une disparition peut être irréversible.
Là, on le voit dans le film, c'est l'histoire dans l'histoire, la petite histoire du soir. Le père, la figure du père est idéalisée. Est-ce que c'est aussi c'est nécessairement dans ce sens-là qu'on comble l'absence d'un parent?
Non, au contraire, on peut même l'alimenter, si je puis dire. Mm-hmm. C'est-à-dire que si le parent restant a du mal à justement vivre sa vie et vivre en fonction des nouvelles conditions de vie, ça bloque un peu l'enfant dans le même schéma. Donc, si le parent a du mal à faire le deuil, ça maintient aussi l'enfant dans ce schéma-là, et il peut avoir de la difficulté lui aussi à composer avec le monde des vivants qui lui restent.
Ouais, avec la réalité à laquelle il est confronté. Comment est-ce qu'on transmet la mémoire d'un parent, d'un père ou d'une mère qui n'est plus là? Qu'est-ce qu'on met en place auprès d'un enfant pour garder ce souvenir s'il en a vivant?
Disons qu'il faut, évidemment, on aura tendance à garder les bons côtés du parent et de laisser les mauvais côtés.
Là, mais on le voit très bien au début du film, les très bons côtés du père.
Voilà, donc ça, c'est évidemment, c'est constructif pour l'enfant, mais il faut aussi que l'enfant se rende compte que le parent, c'était un être vivant tout à fait ordinaire et qui avait aussi ses défauts. Enfin, voilà, que cet idéal ne devienne pas écrasant pour l'enfant.
On peut transmettre de façon honnête, vraiment, et pas déceptive, finalement, dire que ton père était un individu normal, c'est peut-être un petit peu compliqué, quand on est dans la peine de la séparation, de la disparition, non ?
Je dirais honnête, oui, objectif, pas forcément. Donc, voilà, donc c'est évidemment le parent qui reste va garder certaines choses de cette personne disparue. Et c'est surtout ces aspects-là qui vont être transmis à l'enfant. Mais l'enfant a malgré tout des souvenirs inconscients de ce qu'il a vécu avec ce parent. Et ça peut entrer en concordance. Plus ou moins fortement avec son ressenti personnel.
Est-ce qu'il faut dire que c'est un salaud si c'était un salaud ? Là, pour le coup, on a ce personnage du flic ripou qui, voilà, le personnage d'Adèle Haenel découvre qui était vraiment l'homme avec lequel elle vivait et qui était ce père. Est-ce qu'on doit aussi...
Et elle le fait bien partager avec son fils.
Elle insinue des éléments dans les histoires puisqu'elles évoluent. Il n'est plus si flamboyant qu'au début. Non. Est-ce qu'on doit dire ça aussi ? Est-ce qu'on doit confronter disons à cette réalité dont vous parliez ?
Disons que l'idéal, c'est que le parent garde un peu son ressentiment pour lui et, et alors sans pervertir la réalité, mais en tout cas ne fasse pas porter à l'enfant tout le ressentiment qu'il a par rapport aux parents disparus ou aux parents absents.
Et est-ce qu'on s'y prend d'une façon différente si c'est la mère qui n'est plus là ?
Si c'est la mère qui n'est plus là, ben on a tendance à considérer que l'absence d'une mère, c'est plus grave.
C'est étonnant ça, non ? Encore, ben voilà. On pense ça aujourd'hui. Est-ce que c'est pas étonnant ? J'ai l'impression de jouer contre mon camp, mais non, en fait. Est-ce que c'est pas étonnant de faire une hiérarchie dans le manque entre la figure maternelle et la figure paternelle ?
Oui, c'est étonnant, je sais pas, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un grand sujet. Est-ce qu'une mère, c'est plus important qu'un père? Ouais. Enfin, voilà. Après, le but, c'est de pas mettre les deux parents en compétition. Mais c'est vrai que souvent, dans le discours classique, on considère que l'absence d'une mère ou le fait qu'une mère s'en aille, c'est plus traumatisant pour un enfant.
Et comment est-ce qu'on peut, le parent qui reste, comment peut-il compenser ? Soit on trouve quoi ? D'autres modèles masculins auprès de ce petit garçon, dans le film notamment, ou en se chargeant d'une forme de paternité en plus de son rôle de mère ?
Ça peut être de différentes manières. Après, il y a pas l'enfant, il ressent pas forcément de manque dès l'instant. Enfin, c'est le parent qui va lui signifier qu'il existe un manque.
D'accord.
Donc, l'enfant, il compose avec ce qu'il a et il va pas forcément chercher plus loin. Alors évidemment, il peut, à un certain âge, se comparer aux autres enfants, se rendre compte que c'est d'autres enfants ou deux parents et c'est pas son cas. Donc, dans ces cas-là, ça peut susciter une série de questions. Mais disons que, au quotidien, il n'a pas forcément l'idée de penser sa vie autrement que ce qu'il vit.
Et comment est-ce qu'on, justement, on aide à construire cette image-là ? Vous en parliez simplement, vous, mais c'est votre métier, vous êtes psychologue, thérapeute familial. Comment est-ce qu'un parent peut s'y prendre ? C'est avec l'entourage proche, les grands-parents, la famille ? Comment on procède ?
Comment on procède pour...
Justement, pour construire cette image du parent manquant.
Je ne sais pas s'il faut procéder d'une certaine manière. Il faut que l'enfant se la construise par lui-même en fonction des éléments dont il dispose de part et d'autre. Mais voilà, je ne pense pas qu'il faille livrer une représentation méthode, toute faite du parent manquant et que c'est aussi à l'enfant de composer avec ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit de la représentation que les gens qui l'ont connu ont de lui.
Merci beaucoup Raphaël Milkovic. Vous signez, je le rappelle, avec François Poisson. Parenting, le parent est aussi une personne. Comment parler de l'absence d'un parent à un enfant ? C'est chez Odile Jacob. Merci d'être venu.
Nous, on essaye de ménager l'auditeur. On dit rien de mal à propos de Nagui. Pourtant, elle est disparue récemment. Enfin, bon, voilà.
C'est un parent manquant aussi. Tu vois, moi, j'ai perdu mon papa.
Il ne faut pas l'idéaliser non plus.
Jamais l'idéaliser. Lui, non plus, il ne faut pas l'idéaliser. Pourtant, il est là. Il est venu nous voir. Tanguy Sophie Pastureau. Alors, Daniel Obono, Sophia Chiricou sont des personnes qui vous font rêver.
Oui, déjà parce qu'elles sont de gauche, ce qui n'est plus si courant, je veux dire, dès qu'on passe la porte de France Inter. Et ensuite, parce que l'une a accepté le défi de l'animateur Coé de placer le mot bolos à l'Assemblée, tandis que l'autre racontait qu'elle était la meilleure de tout l'univers, juste devant Dieu, à la télé. Elles osent tout, elles sont super, Daniel.
On reviendra là-dessus dans la deuxième partie de l'émission, émission avec Pio Marmaille et Vincent Elbaz pour En Liberté. De la bande originale sans Maggie Mac avec Tom Villard.
Bonjour.
Jérémy Crédville.
Bonjour.
Frédéric Ségriste.
Bonjour.
Tanguy Pastureau dans un instant. Et bien sûr, Leïla Kadour.
Bonjour. Daniel Morin et nos invités Pio Marmaille et Vincent Elbaz. Pour un très beau film que je vous recommande d'aller voir en salle dès mercredi, En Liberté de Pierre Salvadori, vous allez aimer ce réalisateur, son travail et la partition qu'il donne à jouer à ses acteurs, à savoir Adèle Haenel, Audrey Tautou, mais également le
Damien Bonnard.
Damien Bonnard, qui finalement, on a parlé tout à l'heure d'un trio amoureux, mais c'est un quadrilatère amoureux, ça va un petit peu plus loin que ça, cette histoire. Pour rappeler rapidement...
C'est un quadrilatère.
Quatre, Pio, ça va bien se passer. L'histoire...
C'est souvent ce qu'on se dit.
C'est pas très sexy comme ça.
Ça va bien se passer.
Et à 5, c'est combien?
À 5, c'est combien?
Un pintin. Allez, on poursuit. Pour parler de, si vous voulez qu'on parle du film En Liberté qui sera en salle dans deux dodos, c'est l'histoire d'un personnage qui est incarné par Adèle Haenel, Yvonne, qui découvre que son mari qui est décédé était un ripoux et qu'il a mis en prison un homme qu'elle va rencontrer. Cet homme, c'est vous, Pio Marmaille. Après 8 ans de prison, vous redécouvrez la liberté, vous redécouvrez la femme qui partage votre vie dans une scène très, très touchante. Vous nous en parlez un peu?
C'est la scène de où Antoine en fait simplement sort de prison et rejoint sa compagne qui l'attend quand même depuis 8 ans. Et en fait il arrive un peu trop tôt. Donc il arrive, il rentre, machin, il marche sur les graviers, il tape à la porte, et elle est en train de passer l'aspirateur, et elle dit oh merde, mais Antoine, il y a un truc très fort déjà de retrouvailles entre les deux, qui est quand même, d'ailleurs c'est le premier jour de tournage.
Ah d'accord, première scène.
Ouais, donc c'était assez électrique, très très électrique. Et en fait, elle lui dit, excuse-moi,
Pourquoi électrique?
Parce que tous les premiers jours de tournage, je pense qu'il y a, et surtout quand on a des scènes comme ça à jouer avec des enjeux aussi forts quelque part. Enfin, c'est que de la projection. Je ne sais pas ce que c'est de ne pas voir quelqu'un pendant 8 ans et la redécouvrir comme ça en ouvrant une porte. C'est une chose que je peux que imaginer. Mais il faut qu'il y ait de l'électricité, sinon c'est un peu stérile, naze, quoi. Ouais. Et donc, elle lui dit, est-ce que tu peux ressortir?
Je suis pas prête.
Est-ce que tu peux? Je me prépare. Donne-moi 20 secondes.
On la refait.
Tu sors et tu re-rentres et on fait comme si cette rencontre qu'on a eue là n'a pas existé. Et donc il ressort, il re-rentre. Il y a un truc qui va pas de nouveau. Il la refait. Donc c'est une scène assez belle, je trouve, sur le.
Elle est dure parce que c'est. Il y a le gag de je suis pas prête, recommence. Et il y a aussi l'émotion parce qu'elle veut remultiplier.
Exactement. Elle veut,
cette sensation du retour.
Bah c'est ce que ça raconte, je crois. C'est aussi comment comme ça les individus s'emparent de la vérité. C'est quoi le fantasme? C'est quoi le sens du théâtre, hein, le sens de la fabrication, de l'événement. Moi je trouve ça assez fort parce que c'est vraiment prendre cette séquence qui aurait pu être un peu niaise quelque part, enfin ou très simple, et lui donner de la puissance dramaturgique et de jeu et de poésie. C'est vrai que à jouer, c'est vraiment, je trouve ça vraiment exceptionnel, quoi.
Et c'est un procédé qui est repris un peu plus loin dans le film. Là aussi, c'est toute la force du film de Salvadori, c'est de passer de ces scènes d'action que vous incarnez où on est ébahi aussi par la performance physique parce que on retrouve toutes les genres du code du film d'action à plein. Ça joue vraiment à plein. Ces moments d'émotion, ces gags aussi incarnés par votre personnage qui est vraiment ce mec borderline qui on ne sait pas s'il se suicide ou s'il se baigne, on ne sait pas où la vie le mène, quoi. C'est ce savant mélange qui fait pour moi dans Liberté un film rare qu'il faut aller voir, qui a eu un grand succès je crois à Cannes.
Oui.
Alors, on a assisté à la projection. Ouais. C'est vrai que c'était.
Ouais, les gens. Alors les gens
électriques pour le coup là.
Les gens ont applaudi dès la fin de la scène d'ouverture. En général, les gens soit crient, soit jettent des objets plus ou moins coupants vers les gens devant eux. Et là, c'est vrai que c'était vraiment très accueillant quoi. Donc c'est vrai que quand ça arrive comme ça à Cannes, c'est bon. Moi, c'est un truc qu'on vit pas souvent dans l'existant. Donc il faut embrasser ce truc-là. Il faut l'accueillir avec plaisir.
Mais il faut dire que les séquences d'action sont particulièrement bien réalisées et au regard du cinéma français et du cinéma de genre, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu des séquences d'action aussi bien troussées parce que ça défourait. C'est-à-dire qu'il y a même des moments où, toute proportion gardée, ça rappelait un peu The Raid de Gareth Evans dans des lieux confinés où on enchaîne les passes d'armes. Et vraiment là-dessus, il y a un super travail qui a été fait.
Je suis d'accord.
Oui, c'est vrai qu'il avait le désir de le faire bien. Ouais. Il se moque pas. C'est pas de la moquerie des films d'action. C'est pas dénigrer un genre. Pas du tout. Au contraire, je dirais même, ça questionne même la place du héros dans le cinéma français. Ouais. Parce que dans le cinéma, il y a pas tellement de héros où on en a plus, où on a. Enfin, comment dire ça. On trouve ça désuet maintenant un peu ça.
C'est la figure du anti-héros.
Ou du héros du quotidien. Là, je trouve qu'il a un rapport à. Aux personnages qui sont Salvadori, il oublie jamais que ces personnages sont avant tout des personnages de fiction, donc des héros. Et j'aime beaucoup dans son écriture ça. C'est vrai qu'il a un petit côté anglo-saxon de toute façon dans l'écriture, même des dialogues
Il dit qu'il c'était hyper important de soigner effectivement comme tu dis, de donner vraiment une si on va se mettre sur la tronche, si on va s'arracher les oreilles et se crever les yeux, il faut vraiment que les gens d'un coup se disent oh putain là ça y va franco quoi. Et c'est vrai que c'est vrai qu'on a beaucoup répété, c'était un vrai travail quoi, ça n'a pas été fait
ça se ressent à l'image. Ça
non,
se voit
il
à
a
l'image,
traité aussi différemment les scènes d'action de mon personnage qui sont dans le fantasme d'un enfant qui héroïse son père. Donc là, c'était l'hommage un peu à Belmondo, le magnifique, quoi. C'est-à-dire, on ridiculise petit à petit un personnage héroïque. Et le réalisme, par contre, de la violence des scènes de baston du personnage de Pio, où il a traité très différemment visuellement, au niveau de la mise en scène, il y a un vrai travail qui est fait sur le réalisme de ces scènes-là avec le personnage d'Antoine, joué par Pio, où il est effectivement, il a des accès de violence, où elle, Audrey Tautou, elle dit c'est fou, tu défonces un mec, on dirait que tu ranges ton bureau.
Oui. C'est-à-dire, c'est une façon de ranger la rue.
Et mon personnage, lui, qui est dans des scènes d'action plus 70s, on va dire, avec des chorégraphies de combat, machin et tout, des trucs. Alors que, par contre, c'est le même travail pour Pio comme pour moi. C'est des répétitions de scènes de combat, de chorégraphies qu'il faut incarner différemment. Quand on est conscient qu'on est dans un registre différent. Quoi.
Lui aussi, il est dans le combat, moi dans la chorégraphie. C'est Tanguy Pastureau qui maltraite l'info. Tanguy, il paraît que vous avez de plus en plus de mal à croire. La politique.
Oui, je suis désabusé, Daniel. J'ai mal à mon urne. Quand je regarde ma carte d'électeur, j'ai envie de chialer comme un môme à qui on apprendrait que le Père Noël existe, alors que jusqu'à présent, il pensait que c'était ces vieux qui achetaient des jouets. Lorsque j'ai reçu ma carte, j'étais tellement fier. À chaque fois que je votais, j'avais un coup de tampon, comme au kebab, mais sans les tomates et les oignons, juste les salades. La politique en 2018 n'est plus qu'une immense litanie de clash et de buzz. À côté des responsables de parti, Sarah Fraisou des Vacances des Anges 3 est une nonne en pleine cure de silence à l'abbaye de Huc. Les politiques crédibles se comptent sur les doigts de la main d'un boucher qui aurait tenté de réparer sa trancheuse à jambon sans penser à la mettre sur off. Europe Écologie Les Verts, c'est foutu, ils sont quatre en train de se biodégrader. Le PS est mort, l'œuvre de Hollande, maintenant il végétatule et donne des leçons de réussite à la terre entière. S'il y a un bronzé 4, il fera le rôle de Jean-Claude Duss devenu prof de ski. Au PS maintenant, il y a Olivier Faure, un inconnu. Même sa mère, quand on l'interroge, répond « je sais pas qui c'est » et il dégage la même force de conviction qu'une bite d'amarrage. Sa seule télé, du coup, ça va être Thalassa. À droite, Wauquiez, le pêcheur à la parka molle et aux idées dures, séduit tellement son camp que d'après un sondage, les militants LR lui préfèrent Marion Maréchal, une gosse qui, à Lyon, vient d'ouvrir son école alors qu'elle a l'âge d'y aller. C'est comme si Gérard Collomb ouvrait un EHPAD. Et Macron, qu'on décrivait comme un demi-dieu hyper sexy qui allait sauver le pays, a passé ses premiers 16 mois à nous dire qu'on était des cons. C'est Pascal, le grand frère, s'il avait le physique de Kevin, l'ado qui devait convaincre de plus tuer Nietzsche, ni sa sœur. Bref, le suffrage universel n'est plus qu'un vaste bêtisier d'énergie 12. Moi-même, pour l'élection Miss Grossin au Cap d'Agde l'été prochain, je sens que je vais m'abstenir. Et là, l'auditeur d'Inter, c'est Intermondialiste qui se félicite que Daniel Morin soit en coprésentation cette semaine. Puisqu'il est contre la consommation, il a en tout une chemise qu'il fait tourner du lundi au vendredi. Et le samedi, il est nu au lavomatique en attendant qu'elle sèche. Cet auditeur se dit, tiens, Pastureau n'a pas évoqué la France insoumise. J'en étais sûr, il était loin d'être partial, ce naze. Je le hais, je vais le pourrir sur Twitter, et si je le croise en vrai, je ferai rien, parce que j'ai la confiance juste sur Twitter. Mais c'est parce que j'ai gardé le meilleur pour la fin. La France insoumise, ils sont en feu, ils sont trop en mode what the fuck, comme je dirais si j'étais jeune, tout en grattant mes pustules d'acné, tandis que derrière moi, retentirait la playlist rap de ouf sur Spotify.
Ne me dites pas que vous allez encore nous parler des frasques de Jean-Luc Mélenchon.
Non, mais là, parce que Mélenchon s'est calmé, ça fait 8 jours qu'il n'a hurlé sur personne, ce qui pour lui est un record. Ça y est, il arrive à se canaliser. Soit il s'est inscrit à un atelier de polyphonie corse et il crie dans le maquis avec des mouflons, soit il a trouvé un groupe de soutien, les Brailleurs Anonymes, où il écoute en compagnie de Nadine Morano des disques de Carla Bruni sur des enceintes emballées dans du coton. Non, je vais vous parler de Sophia Chikirou, accusée de surfacturation et qui a le caractère de Mélenchon, mais fois mille. Elle a la rage. Vous lui demandez du sel, elle vous balance la salière dans la gueule en hurlant « Tu veux du poivre aussi ?» Chikirou, c'est elle qui a fait la com de la campagne de Mélenchon. Vous savez, ce truc délirant où le gonze apparaissait en hologramme jusque dans les WC de Tati Hortense. Et d'après Mediapart, elle serait la petite amie de Jean-Luc. Ce que l'autre a démenti. Il a dit « J'ai juste une chambre chez moi où de temps à autre dorment des camarades de lutte. C'est comme un Airbnb mais sans jacuzzi. Quand vous allez dans la salle de bain, vous voyez juste Mélenchon en train de se frotter avec un savon cubain au rhum ayant la forme de la tête du Tché. » Donc la semaine dernière, Chikirou est invitée sur BFM face à Ruth Elkrief, la nana austère qui s'habille avec les fringues de sa grand-mère mormone. Elle se met à dire « Ouais, c'est vrai que j'en ai eu des idées géniales, mais moi, attendez, on m'appelle à l'international. Hein, » elle a la chetron de la même taille que le derrière des Kardashian. Avec Mélenchon qui se prend pour Krishna, ils ont 2 melons. Encore 4, on fait une cagette. Chikirou ajoute « Pour me faire baisser les yeux, il faudra me les crever. » C'est la seule, quand on l'accuse d'avoir surfacturé 3 pauvres vidéos avec Mélenchon, qui répond comme Pablo Escobar dans Narcos quand des flics menacent de kidnapper son fils. Là-dessus, la députée insoumise Danielle Obono regarde la télé comme tout le monde sauf Bernard Pivot qui lit des livres. Elle voit Chikirou et écrit sur Twitter « Elle leur a mis le feu, la misère, hashtag badass ». Un badass en anglais indique qu'il faut pas énerver la personne. Bertrand Cantat, par exemple, est un badass. Francis Holm, un very badass. Et là, Coé, l'animateur, lui répond. Hein, les réseaux sociaux, c'est absurde. Coé parle à Obono qui retweet Enjoy Phoenix, qui écrit bisous à Choupette, la chatte de Lagerfeld. Coé écrit, ça a changé le langage des députés. Il réalise qu'Obono s'exprime comme Kevin, son petit neveu de 9 ans qui kiffe PNL. Et il lui dit, maintenant vous devez placer Bolos à l'Assemblée Nationale. Un Bolos, c'est pas un badass. Hein, c'est un ringard. À côté de la plaque, François Bayrou est un Bolos. Et Obono répond, ok, je vais vous caser Bolos, hashtag tu peux pas test. Enfin, c'est la politique avec le français d'énergie 12. Je pense que le prochain président de l'Assemblée, c'est Moundir l'aventurier. Donc, il y en a une qui joue les auditrices de Fun Radio, une qui a les chevilles taille 72, plus les autres qui se traitent de tous les noms. Non, la politique, j'y crois plus. Et oui, j'ai mal à mon urne.
Bravo,
France Inter, la bande originale.
Bande originale avec Pio Marmaille et Vincent Elbaz pour En Liberté de Pierre Salvadori qui sort après-demain, 31 octobre, c'est-à-dire dans 2 jours. Si
c'est
je
ça, c'est deux dodos, voilà. Absolument. Et on a évoqué tout à l'heure le travail très précis de Pierre Salvadori dans la façon de vous diriger, parce que l'exigence de ce film qui mélange en effet beaucoup de genres avec une précision assez folle. Il parle beaucoup dans les interviews de Jonathan Demme, des comédies des années 80, très inspiré par le cinéma étranger. Salvadori, est-ce qu'il vous a donné un peu de travail à faire en amont du film pour voir un peu l'esthétique qu'il voulait approcher? Est-ce que c'est des conversations qui ont lieu avec un metteur en scène avant que vous vous mettiez vraiment à jouer ensemble sur le plateau?
Non, personnellement, non. Ouais. Non, moi, ça c'est des... Comment dire, c'est un peu des... Il y a des metteurs en scène, ouais. Faudrait qu'ils vous donnent un bouquin.
Une approche documentaire un peu avant de tourner.
Ouais, non, il m'a pas demandé de... c'est un peu abstrait, c'est un peu on est dans l'idée là.
D'accord.
C'est-à-dire le concret du travail, ça reste quand même sur le scénario, le matériau et puis le plateau quoi.
Je sais qu'il en a, moi non plus, on en parle, on parle de cinéma, je pense hors plateau, hors préparation
parce
de film.
Parce que toutes ces interviews sont pétries de références, c'est passionnant. On a envie d'aller voir des films grâce à lui. Moi, je me suis fait une petite liste.
En ce moment, il revoit beaucoup de films des années 80, de comédies américaines des années 80, un peu. Oui, c'est vrai.
Mais il a donné des films à voir à Adèle plutôt.
D'accord. Parce que c'était la première fois qu'elle versait dans ce genre-là ou
je sais pas. Je pense que c'est un truc peut-être d'énergie ou de je sais pas.
Manque de confiance.
Je sais que c'est un grand fan de.
Oui, justement.
C'est un grand fan de Lubitsch.
Ouais.
Et de Jim Carrey. De Jim Carrey, tu vois par exemple. Ouais. C'est marrant.
Ouais,
c'est.
Ouais, je suis d'accord.
Non,
après tout, c'est pas faux. Hein.
Merci beaucoup, Pierre Marmaille, pour cette participation active pour cette émission.
Lui aussi est étonnant, il peut être touchant, il peut être drôle surtout. Frédéric Sigrist.
Merci Daniel, je t'adore.
Je t'en prie.
Alors hier, on apprenait la disparition de Philippe Gildas et je dois avouer que ça m'a fait quelque chose. Alors c'est surprenant parce qu'habituellement je ne suis pas homme à m'émouvoir de la disparition de personnalités publiques. Par exemple la semaine dernière on apprenait la mort de Robert Forisson. Eh bien ça ne m'a fait ni chaud ni froid. Et même les gens qui me croisent auraient même pu se dire « Ah non seulement Frédéric il s'en fout mais limite il est content ». Mais Philippe Gildas, c'est différent, parce que c'est nulle part ailleurs, c'est Canal Plus de la grande époque, c'est cette époque où on était prêt à acheter un décodeur pour l'avoir en, pour voir les programmes en clair, alors qu'aujourd'hui, avec les programmes de Bolloré, tu paierais presque pour regarder Hanouna encrypté. Voilà. Et vous savez, on dit que la drogue est un fléau, mais faut quand même dire une chose, c'est qu'à Canal, quand ils en prenaient, leur émission était quand même vachement mieux. Hein, ils ont gagné, mais c'est vrai, ils ont gagné en espérance de vie, ils l'ont perdu en part de marché. Hein. Alors depuis hier, sur les réseaux sociaux, les témoignages affluent. Hein, la disparition d'une célébrité, c'est toujours l'occasion pour certains de rappeler qu'eux aussi, à un moment, ils étaient connus.
Ah oui, Philippe Gildas, je me souviens, il m'avait invité pour mon premier album, qui fut aussi le dernier, mais qui va ressortir à l'occasion de mon intégration dans la tournée Star 80. Je pense que s'il était encore avec nous, il voudrait qu'on en parle sûrement beaucoup plus. Et c'est vrai que t'as des crevards dans ces moments-là. Hein. T'as des gens, ils sont prêts à distribuer des flyers de leur spectacle à la sortie du Père Lachaise. Hein. Quand on n'a pas droit au sempiternel RIP des internautes sur les réseaux sociaux. Alors ça, c'est un truc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui disparaît, tu vois, sur Facebook, RIP Johnny, RIP Aznavour, RIP Philippe Gildas, RIP, mais c'est moche ! RIP ! Non mais c'est vrai, c'est moche, quoi ! À qui tu t'adresses quand t'écris RIP sur Facebook ? Bon, admettons, t'as un ego hypertrophié, hein, du genre, quand tu jouis, tu cries ton propre prénom, tout ça, hein, et t'estimes suffisamment important de devoir commenter la disparition d'une personnalité. Ok, mais va au bout de la démarche ! Fais une phrase, putain! Juste RIP! Même un bout de scotch qu'on arrache et t'as l'impression qu'il a plus de vocabulaire. C'est comme les gens qui te souhaitent ton anniversaire sur Facebook en t'envoyant HB pour Happy Birthday. Mais espèce de grosse feignasse. Mec, si dans ta journée t'as le temps de traîner sur Facebook pour voir qui fête son anniversaire, t'as le temps d'écrire une putain de phrase! HB, c'est quoi leur dialogue dans la vie quand ils ont un fou rire, c'est le HB, c'est le RIP des anniversaires. J'ai envie de participer à l'événement, mais pas trop. Le mec qui écrit RIP au décès et HB aux anniversaires dans un déménagement, c'est le mec qui porte le carton avec les coussins. Puis alors évidemment, pour en revenir à Philippe Gildas, c'était un des rares animateurs qui donnait l'impression d'être à l'antenne ce qu'il était à la vie. Ah, le mec sympa, espiègle, cultivé. Alors qu'il y a des animateurs télé, t'as l'impression qu'ils sont sympas que quand la caméra est allumée. T'as l'impression qu'ils ont même plus de dents filmées que dans la vie. Alors là, je sais que vous êtes en train de vous dire « Ouh, il va balancer sur Nagui !» Non, je sais qu'il a des détracteurs. Non, ne vous en déplaise. Nagui est à la vie ce qu'il est à l'antenne, vu que de toute façon, il passe sa vie à l'antenne. Pour moi, nulle part ailleurs, c'était le symbole d'une télé qu'on regardait encore. On la regardait en groupe, en famille. Le lendemain, au collège, on parlait des sketchs des nuls, d'Antoine Decaune, José Garcia, Carl Zéro, Albert Algou, les guignols. Tout ça, c'est fini aujourd'hui. Pour voir des créatures de latex qui parlent de politique, faut attendre que Ariel Dombal se mette à parler de son mari et les textes sont vachement moins drôles. Dans la cour, maintenant, ils regardent quoi les jeunes? Ils regardent la vidéo de Moussa qui a braqué la prof d'espagnol avec son pistolet à billes et puis on enchaîne direct avec un tuto sur Minecraft et un bouc hacké sur YouPorn. C'est n'importe quoi. Et après, on s'étonne que l'extrême droite soit arrivée au Brésil, mais tout est lié.
À la télévision aujourd'hui, t'as quoi? T'as Cyril Hanouna qui lance des débats pour ou contre l'IVG. Et faut vraiment que quelqu'un se dévoue. Hein. Faut lui dire que c'est on a le droit maintenant. Hein. Ou qui reprend ceux de Fun Radio, pénétrer sa partenaire pendant qu'elle dort. Est-ce que c'est un viol? Bah oui, quand même un peu. Et ils en parlent pendant 20 minutes. C'est comme si moi j'attendais ce que Cyril Hanouna a à en dire. Éric Zemmour, qui la dernière fois je l'ai vu à la télévision, veut réhabiliter Pétain. Mais je crois que l'insouciance communicative de Philippe Gildas, cette époque où on se couchait pas en se disant que demain allait forcément être pire qu'hier, eh bien cette insouciance-là, à la télé, elle est désormais nulle part ailleurs.
Merci Frédéric. La bande originale
sur France Inter. Au Théâtre des Deux Ânes, Fred, tous les mercredis à 20h, allez le voir.
Théâtre des Deux Ânes, nouvelle formule.
Nouvelle formule. Ah oui, si c'est vrai, il va falloir m'expliquer. Ouais, ouais.
Je t'expliquerai tout à l'heure. Nous sommes avec Pio Marmaille, Vincent Elbaz pour En Liberté de Pierre Salvadori, qui sort après-demain dans Deux Dodos. On n'a pas parlé du petit garçon Octave Bossuet, qui est formidable, à votre fils, qui au départ est son père, c'est Belmondo, et à la fin, c'est plutôt Gaston Lagaffe. la toute fin est formidable.
Oui, oui, très émouvante.
Ouais, ouais, très, très c'est émouvant.
Vrai. Oui, oui. Oui, il a un regard. J'aime bien son regard à cet enfant. Il a de grands yeux ouverts comme ça. Il est émouvant.
Et puis, j'avais pas parlé de Damien Bonnard tout à l'heure, qui joue à la perfection ce personnage de Louis, qui attend en douce l'amour parce que Yvonne, il a dévore des yeux depuis des années. Alors, si on va en amont de ce film et après ce film, qu'est-ce que nous réservent les prochaines semaines avec vous? Quel projet êtes-vous en train de développer en ce moment, Pio Marmaille?
Le culturisme, déjà. Je vais faire un gros retour dans le culturisme fondamental, puisque j'ai que ça à foutre. Hein. C'est un peu les vacances là, qui m'attendent au bout du tunnel.
Ça veut dire quoi? Après la fin de la promo de Dans Liberté, après, vous avez
dès jeudi. Là, je vais être très franc. Hein. Un peu de repos.
Ouais. Qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un comédien quand il tourne pas? Est-ce que vous accueillez ces moments-là avec plaisir ou pas? Parce que selon les comédiens, c'est pas du tout la même réaction.
Moi, ça me fait du bien parce que je travaille ailleurs. Effectivement, j'ai mon atelier où je peux fabriquer des choses, ou faire de la sérigraphie, ou faire un peu ce que je veux, en fait.
Vous restez actif. Laboratoire. Ouais. Ouais.
Mais non, là, c'est juste une. Et puis, le programme est assez chargé dans l'année à venir. Mais c'est surtout que c'est important, je pense, d'avoir un peu de temps pour soi, parce que c'est un luxe un peu quelque part, je pense,
de résumer. Mais il y a des comédiens qui tournent tout le temps et qui le disent clairement.
Ça s'arrête. Non,
quand j'arrête de tourner, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Quoi. Il y a vraiment qui comblent finalement le vide aussi en tournant.
Peut-être. Ouais. Moi, peut-être que je fais le malin là, mais peut-être que je vais être hyper anxieux dès lundi prochain. Mais après, a priori, je crois que c'est pas un truc qui m'angoisse.
Et c'est quoi les projets pour l'an prochain alors?
Ah, je sais peut-être pas. On verra, parce que c'est toujours en mouvement.
Non,
on verra. Déjà, il faut que Pierre il écrive très vite, hein, parce que là, dépêche-toi, Pierrot, dépêche-toi. non, je pense qu'on va. Oui, je pense qu'on va refaire un truc avec Pierre là.
Ouais.
Mais il faut qu'il finisse de travailler, puis d'autres petites choses. Mais je
on reviendra en parler.
Ouais. Voilà. Et vous, Vincent, voilà. Vincent Elbaz.
Moi, je vis quoi. Ouais. Je vis. Je vis bien.
Ça va bien.
Non mais vous vivez bien les moments sans tourner.
Ouais, ça va. Non, ça va, je vis bien. Ouais.
Il y a des envies, des projets, du théâtre,
Il y a des des envies, des projets, du théâtre. Non mais
réponse. Bon, merci beaucoup Vincent.
Non, mais je suis désolé, je peux pas en parler. Ouais. Non mais c'est vrai que c'est une question qui est c'est vrai. Non mais quelque part c'est bizarre cette question. Non mais c'est vrai. C'est vrai que c'est je sais pas du tout ce que je vais faire. Ouais, c'est vrai.
Mais on en reparlera la prochaine fois.
Ouais. Non mais d'un coup je prends conscience que je n'ai aucun projet.
Hey, salut, merci.
Alors Pierre Salvadori écrit vite. Ciao.
Pierre Salvadori en liberté avec Pio Marmaille, Vincent Elbaz, la sortie prévue aura lieu après-demain.
Allez, quelques désolés avant de se quitter.
Oh, quelques désolés. Bon bah désolé pour toutes les actrices, les acteurs qui pensaient, hein, selon la légende de l'intervieweur de Marie-Claire 2015, que Vincent Elbaz tombait amoureux à chaque tournage. Il l'a dit ce matin, c'est pipeau. Désolé pour Madame Elbaz. Finalement, Vincent Elbaz confirme, il me fait signe qu'il allait refaire sa vie avec Pio Marmaille dans un camion à saucisses.
Merci à tous les deux d'avoir été avec nous pour En Liberté de Pierre Salvadori qu'il faut aller voir au cinéma à partir de mercredi. C'est un très beau film. Je crois que c'est une des plus belles comédies que j'ai vues ces dernières années.
Je suis d'accord. Voilà.
Merci.
Moi que j'ai vu de ma vie.
Merci à vous demain.
Demain, Roberto Alagna, accompagné d'Alexandra Cursac.